et du Saint-Esprit.
Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser.
Du livre du prophète Jérémie au chapitre 15, verset 16. Quand tes paroles se présentaient, je les dévorais. Ta parole était mon ravissement et l'allégresse de mon cœur, car c'est ton nom que je portais, Seigneur Dieu Sabaoth.
Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser.
En ce carême, Seigneur, ainsi que nous le demande le Saint-Père Léon, permets-nous de nous nourrir spécialement de ta parole, d'y trouver nos délices et notre force. Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bonsoir à tous, merci d'être là pour cette première conférence de carême sur le jeûne. Suivront des conférences sur la prière et l'aumône, voilà les trois grands préceptes du carême qui nous sont donnés dans le chapitre 6 de Matthieu que nous écoutons dès le mercredi des cendres. Alors évidemment le jeûne, justement je l'ai dit hein, peut-être... Vous m'avez entendu en annonce de messe, mais le jeûne, j'ai choisi exprès cela parce que précisément, pour moi, c'est le plus dur des trois. Voilà. Et que quand on est face à une exigence qu'on a du mal à tenir, eh bien, il faut en parler aux autres. Comme ça, au moins, ça nous oblige à être un peu plus sérieux. Et donc, comme j'ai envie d'améliorer, si vous me voyez perdre quelques kilos dans les semaines qui viennent, vous direz que j'ai mis en œuvre ce que je vous propose ce soir. Et si je ne les perds pas, vous pourrez me réprimander vertement, mais aussi m'inviter à un bon dîner. Voilà. Alors, donc, je vais commencer par le premier jeûne. Est-ce que vous savez quelle est la première fois où le jeûne a été commandé dans la Bible, hein, quand je prends la chronologie de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, quand est-ce que ça apparaît la première fois quand on demande à quelqu'un de jeûner? Comment? Je vous caler, voilà. La première fois, mais c'est très très simple, hein, la première fois, c'est ici que ça se passe, très tôt dans la Bible. Tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Voilà, c'est au chapitre 2, c'est cet interdit sur le fameux arbre de la connaissance du bien et du mal, et qui est le premier interdit alimentaire, en fin de compte, de la Bible, et ça vient dès le chapitre 2, donc c'est très tôt. Et on voit bien que c'est la transgression de cet interdit qui va provoquer ce qu'on appelle le péché originel. Et donc les questions de nourriture sont d'emblée, tout de suite, mises en avant dans la Bible comme étant un lieu important. Voilà, le démon, on va essayer de voir, voilà, le démon, sa tactique, hein, pour séduire Ève et l'encourager à manger. Il y a encore des places devant. Il y a des places devant, il y a des places un petit peu là-bas aussi. N'hésitez pas à vous installer. Alors, Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Vous voyez comment c'est présenté? Tiens, bon, Dieu a mis une limite à votre liberté? Nous pouvons manger des fruits des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas. Le serpent réplique à la femme, pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Donc ça veut dire qu'il présente l'interdit alimentaire comme un liberticide, en fait. Et en fin de compte, derrière cet interdit, qui est sur un seul arbre d'un très vaste jardin, donc on peut se dire, au fond, c'est pas très grave, il y a un arbre, ok, celui-là on touche pas, le reste... C'est open bar, on peut s'amuser tant qu'on veut, c'est la fête. eh bien, à partir de ce petit point-là, qui n'est pas grand-chose, eh bien, le démon va faire croire à la femme, et ensuite à l'homme, bien sûr, que Dieu veut tuer leur liberté. Et souvent, on se rend compte que sur ces questions alimentaires, eh bien, ça réveille en nous plein de choses. Qu'en fin de compte, ce petit interdit qui a l'air tout simple, je dis, bon, là, tu vas sauter un repas, c'est rien du tout. Ouh, tout de suite, ça réveille des tas de choses chez nous. Voilà. Et donc, c'est un point important, et c'est une grande sagesse de la Bible que d'avoir imagé, bien sûr, c'est une image, hein, mais d'avoir donné cette image fidèle de la question de la liberté à partir d'une question alimentaire. Mettez-vous là. Donc, le Christ rétorquera. Qu'est-ce qu'il va rétorquer, le Christ, sur la question de la nourriture? On l'a eu dimanche. On va voir si vous écoutez l'évangile de dimanche. Qu'est-ce qu'il a dit dimanche sur la question de la nourriture, le Christ, à la Samaritaine? Non, mais de la nourriture, de la nourriture. Il dit ça aux disciples, il ne le dit pas à la Samaritaine. Non. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Voilà. Les disciples sont partis chercher à manger et ils reviennent. Et puis le Christ leur dit cette nourriture que vous étiez à chercher, c'est très bien, mais ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est comme s'il disait, au fond, c'est dans cette question de la nourriture va se jouer l'obéissance contre la désobéissance de Genèse chapitre 3. C'est-à-dire, je viens rectifier cette désobéissance de Genèse chapitre 3 par, en fin de compte, ce que le Seigneur voulait fondamentalement avec cet interdit de l'arbre. Ce n'est pas mettre une limite à notre liberté, mais voir dans quelle mesure nous sommes capables de le respecter comme Dieu et de penser que c'est lui qui peut nous dire quel est le bien à faire. Voilà. Et les hommes ont préféré en faire à leur tête. Et contre ça, le Seigneur dit, moi, je vais remettre l'humanité dans l'obéissance à la volonté du Père. Donc l'enjeu profond du jeûne, c'est pas simplement de s'abstenir de nourriture pour s'abstenir de nourriture. Ça, c'est des choses qu'on a dans les religions, naturelles. Hein. L'islam étant pour moi une religion naturelle, en fait. Hein. C'est-à-dire que c'est une réduction rationaliste de la foi, avec un dieu principe créateur, point, mais qui n'est pas un dieu d'alliance, et qui c'est pas tellement plus évolué que les religions naturelles qu'on peut avoir d'animisme ou quoi, qui vont mettre le jeûne comme essentiellement une purification, et ça on l'a dans plein de religions. Et ça, c'est un aspect du jeûne. Mais ce n'est pas l'aspect fondamental. Aujourd'hui, on essaie de voir derrière les pratiques, en examinant les pratiques, hein, qu'on va détailler, derrière les pratiques de jeûne, qu'est-ce qui est visé? Ce qui est visé, c'est de rentrer dans la volonté du Père. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Hein, c'est bien le but. Alors, n'oubliez pas de rallumer vos téléphones après, bien sûr. Alors, tout d'abord, on va faire un petit tour par l'Ancien Testament. Ensuite, on verra un petit peu comment Jésus pratique le jeûne, ou en tout cas, comment il le recommande, puis nous irons chez les pères du désert, hein. Je vais vous expliquer ce que c'est que les pères du désert, s'il y en a qui ne sont pas forcément familiers avec ces gens-là, et ça c'est des gens qui ont vécu, donc des gens qui ont vécu après Jésus, hein, bien sûr, et puis aujourd'hui le jeûne tel qu'il est pratiqué aujourd'hui dans l'église catholique romaine, voilà. Parce que les églises d'Orient ont une façon un peu différente de pratiquer. Alors d'abord, dans l'Ancien Testament et le judaïsme, d'abord un jeûne c'est quoi? Vous avez des jeûnes majeurs et des jeûnes mineurs. Les jeûnes majeurs, il y en a deux, c'est Kippour et Tisha B'Av. Donc je vais expliquer tout à l'heure ce que c'est que Kippour et Tisha B'Av. Ce sont des jeûnes majeurs, et donc un jeûne majeur, ça commence, c'est une abstention totale de boissons, de nourriture, de bains, de tous les plaisirs de la vie, bien sûr, y compris le plaisir sexuel. C'est une abstention de tous les plaisirs, et de nourriture et de boissons, du coucher du soleil au coucher du soleil du jour suivant. Hein, c'est, le ramadan a repris le truc. Que vous savez que c'est l'islam, bien sûr, s'est inspiré du judéo-christianisme et surtout du judaïsme. Et donc, ils reprennent ce grand jeûne qui commence du coucher du soleil au coucher du soleil. Pour les jeûnes mineurs, alors là, il y a plein d'occasions de faire des tas de petites fêtes, etc., avec des jeûnes. Il y a beaucoup de jeûnes dans le judaïsme, hein, une bonne dizaine de jours de jeûne dans l'année. Eh bien, ces jours de jeûne sont du lever du soleil au coucher du soleil. Voilà, donc c'est juste pour la journée. Et l'abstention de boisson n'est pas absolument obligatoire. Alors, le premier sens du jeûne, dont nous donne d'ailleurs le sens du jeûne de Kippour, hein, c'est l'expiation des péchés. C'est-à-dire, je jeûne pour obtenir le pardon de mes péchés. Alors, le Kippour, vous savez, c'est le jour du grand pardon. Hein, c'est-à-dire qu'une fois par an, le grand prêtre rentre dans le Saint des Saints du Temple de Jérusalem prononce le nom de Dieu, qui est bien sûr interdit de prononcer en dehors de ça, et demande le pardon pour les péchés du peuple. Mais ce rituel, qui est un rituel d'abord sacerdotal, s'accompagne pour le peuple d'un jeûne qui est dans le Lévitique au chapitre 16. Ce sera pour vous un repos sabbatique et vous jeûnerez, c'est une loi perpétuelle. Au septième mois, le dixième jour du mois, vous jeûnerez et ne ferez aucun travail. Voilà. C'est à la fois le Shabbat et le jeûne pour Kippour, pour obtenir l'expiation des péchés. Et c'est aussi, un peu dans la même idée, le jeûne, c'est l'humiliation devant Dieu. Voilà. Alors on a des fois des jeûnes assez amusants de gens qui sont pas du tout, qui sont de très mauvais juifs. Par exemple, le roi Akab. Vous connaissez tous le roi Akab, j'imagine. C'était ce fameux roi qui a vécu à l'époque du prophète Élie et qui était un très mauvais roi, c'est-à-dire en fait un roi extrêmement efficace économiquement, mais catastrophique spirituellement. Donc pour les juifs, c'est un mauvais roi. Le fait qu'il ait fait gagner beaucoup d'argent au pays, on s'en fiche. Mais par contre, parce qu'il a fait des alliances avec le Liban, il s'est marié avec une Libanaise, et ça plaisait pas du tout aux prêtres juifs. Par contre, évidemment, ça a apporté une grande prospérité au pays. Bon. Et donc ce roi Akab, là, il fait assassiner quelqu'un pour lui chiper sa vigne, et le prophète Élie vient lui dire « Tu vas mourir, les chiens lécheront ton sang, etc. parce que tu as fait ça. » Et quand Akab entendit ces paroles d'Élie, il se déchira ses vêtements, mit un sac à même sa chair, jeûna, coucha avec le sac et marcha à pas lents. Alors la parole du Seigneur fut adressée à Élie de Tishbé en ces termes « As-tu vu comme Akab s'est humilié devant moi ? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant son temps. C'est au temps de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. » Voilà, voilà comment l'humiliation d'Akab lui a valu un sursis. Voilà. Ça lui a valu un sursis. Installez-vous et soyez sans façon. Mettez-vous là, ça ne gêne pas du tout que vous passiez. Regardez, il y a des places sur votre gauche et sur ma droite. Donc ça veut dire que le jeûne, c'est d'abord ça, une humiliation devant Dieu. On est humble devant Dieu parce qu'on est pécheur, parce qu'on a fait des grosses bêtises, voilà. Une autre signification du jeûne dans l'Ancien Testament, c'est le jeûne pour obtenir une faveur divine. Donc je jeûne pour que Dieu prête oreille à mes prières. Alors on a un des exemples les plus touchants, je trouve, même si c'est dur, c'est avec le roi David. Au deuxième livre de Samuel, au chapitre 12, vous savez que David a couché avec la femme de son général. Pendant que son général était à la guerre, et un enfant a été conçu de cet adultère, et David a fait tuer son général pour pouvoir prendre sa femme. Bon, ça n'a pas super plu à Dieu et au prophète Nathan, qui est venu lui faire des reproches, et l'enfant conçu de cet adultère tombe gravement malade, et David va jeûner pour obtenir la guérison de son enfant, qu'il n'obtiendra pas. L'enfant va mourir. Et le deuxième enfant qui naîtra de son union avec Bethsabée, puisque c'était le nom de cette femme, c'est Salomon. Voilà. Mais il n'arrivera pas à sauver l'enfant. J'ai péché contre le Seigneur. Alors Nathan dit à David, de son côté, le Seigneur pardonne ta faute. Tu ne mourras pas seulement parce que tu as outragé le Seigneur en cette affaire. L'enfant qui t'est né mourra. Et Nathan s'en alla chez lui. Le Seigneur frappa l'enfant que la femme d'Ouri avait enfanté à David et il tomba malade. David implora Dieu pour le garçon. Il jeûnait strictement. Rentrer chez lui et passer la nuit couché par terre, etc. etc. Et quand les dignitaires veulent annoncer la mort de l'enfant, le septième jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort. Ils se disaient en effet, quand l'enfant était vivant, nous lui avons parlé et il ne nous a pas écoutés. Comment pourrons-nous lui dire que l'enfant est mort ? Il fera un malheur. David s'aperçut que ses serviteurs chuchotaient entre eux. David comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs, l'enfant est-il mort ? Et ils répondirent, il l'est. Alors David se leva de terre, se baigna, se parfuma, échangea ses vêtements, puis il entra dans la maison du Seigneur et se prosterna. Ensuite, il rentra dans sa maison et demanda qu'on lui servît de la nourriture, et il mangea. Voilà. Donc c'est-à-dire que pour lui, ben voilà, le jeûne, il a fait un jeûne, il a fait ce qu'il pouvait, il a demandé au Seigneur, il n'a pas été exaucé, donc on passe à autre chose. Voilà. C'est très triste, il va consoler sa femme, évidemment, mais de fait, il sait qu'il ne peut plus rien obtenir du Seigneur, puisque de toute façon, le sort en est décidé. Quoi. Ce sera également le cas, mais de façon plus heureuse pour la reine Esther, que les Juifs fêtent dans la fête de Pourim. Voilà, c'est là qu'on place aussi les jeûnes privés. Beaucoup de Juifs pieux jeûnent pour obtenir des faveurs. Ça arrive aussi dans le christianisme. On a récupéré cette... En fait, l'enjeu, c'est de se rapprocher de Dieu pour mieux être écouté. Voilà. C'est-à-dire se détacher un peu de ce monde et se rapprocher de Dieu. Et la troisième raison dans le judaïsme pour laquelle on jeûne, c'est l'autre grand jeûne, le jeûne de Tisha B'Av, qui fait mémoire des grandes catastrophes de l'histoire d'Israël. Voilà. Alors, la première grande catastrophe, et qui est à l'origine de ce jeûne, c'est la destruction du temple de Salomon par Nabuchodonosor, qui n'est pas qu'une bouteille de champagne, hein, qui est un roi, araméen, enfin irakien, quoi. Chaldéen, je vais y arriver. Nabuchodonosor détruit le temple en -585, et ça reste le grand traumatisme. À cela s'est rajouté avec le temps la destruction du deuxième temple, celui que Jésus a connu, en 70 par les Romains, l'expulsion des Juifs d'Espagne, et bien sûr la Shoah. Voilà. Donc en fait, c'est un jeûne qui se charge petit à petit, au fur et à mesure des années, des souffrances du peuple juif. Et c'est un jeûne de compassion, c'est-à-dire que ça n'est pas la faute, évidemment, que il y a une lecture spirituelle, il y a tout un courant du judaïsme qui dit bah, si le temple était détruit, c'est parce qu'on a été infidèle à l'alliance. Donc il y a aussi une part d'expiation du péché, mais il y a aussi simplement le désir de souffrir avec le peuple. Voilà. Je ne suis pas étranger à la souffrance du peuple, même si moi, personnellement, par exemple, ma maison n'a pas été détruite, le temple a été détruit, c'est un grand malheur, et donc j'y participe en jeûnant. Donc je participe à cette souffrance du peuple, il y a une dimension communautaire du jeûne. Ce n'est pas qu'une chose individuelle. Donc, vous voyez, il y a toutes ces choses-là dans le judaïsme, l'expiation des péchés, la faveur divine, la commémoration des catastrophes et la souffrance avec le peuple. Donc, l'enjeu, c'est d'entrer dans la volonté de Dieu, même quand elle est paradoxale. Vous voyez, pour David, cette volonté est paradoxale. Voilà, ce Dieu qui est le Dieu des vivants, qui laisse mourir cet enfant, voilà, c'est paradoxal, évidemment. Mais ça fait rentrer David dans la volonté de Dieu avec une grande pénitence. Voilà, on porte la condamnation pour espérer la délivrance du mal, évidemment. Quand le Christ dit « Mais délivre-nous du mal » à la fin du Notre Père, cette délivrance du mal, elle va avec un certain nombre de pratiques qui font que je vais rejeter le mal en commençant par ce qui a valu le péché originel, c'est-à-dire les questions de nourriture. Mais bien sûr, les prophètes ne méconnaissent pas que le jeûne n'est pas qu'une pratique extérieure. C'est bien sûr une pratique intérieure, et on a ce très célèbre texte d'Isaïe, hein, qu'il faut bien comprendre, hein, sinon on comprend un peu de façon sociale, qui à mon avis est une lecture un peu rapide, je le ressors, c'est en Isaïe au chapitre 58, je le retrouve, pardonnez-moi, je n'ai pas eu le temps de mettre tous les post-it, voilà. Au chapitre 58, vous ne jeûnerez pas comme aujourd'hui si vous voulez faire entendre votre voix là-haut. Est-ce là le jeûne qui me plaît, le jour où l'homme se mortifie, courber la tête comme un jonc, se faire une couche de sac et de cendre? Est-ce là ce que tu appelles un jeûne, un jour agréable au Seigneur? N'est-ce pas plutôt ceci, le jeûne que je préfère, défaire les chaînes injustes, délier les liens du joug, renvoyer libres les opprimés et briser tous les jougs? N'est-ce pas partager ton pain avec l'affamé, etc., etc. Donc on voit que pour Isaïe, en fin de compte, le jeûne est d'abord une délivrance. C'est une délivrance. C'est-à-dire, quand on dit délivrer les chaînes injustes, c'est ça, les chaînes du péché. Ce qui est injuste dans ma vie d'abord. Parce qu'évidemment, on peut avoir une lecture un petit peu, on va dire, révolutionnaire de ça en disant il faut libérer tous les opprimés, on va taper sur ceux qui les oppriment. Bon, ce que vise d'abord Isaïe, c'est de dire les chaînes, c'est toi qui les portes d'abord. Et donc, ton travail, c'est d'abord de te libérer. Bien sûr que si tu peux aider d'autres à se libérer, très bien. Mais les chaînes dont on parle, c'est les chaînes du péché, le joug du péché. Ce qui opprime les gens, c'est ce qui les... Renvoyer libres les opprimés, ça veut dire quelqu'un qui est opprimé par le péché d'abord, le sien ou celui des autres, parce que l'oppression de l'homme sur l'homme vient du péché humain d'abord. Voilà. Eh bien, c'est d'abord là la racine, donc c'est d'abord ça qu'il faut enlever. Et c'est ça qui compte. Et puis, il y a une promesse aussi que ce jeûne-là, eh bien, c'est pas un truc triste. C'est quelque chose qui sera récompensé dans le monde à venir, en une grande joie. Ainsi parle le Seigneur des armées, Sabaoth, le jeûne du quatrième mois, le jeûne du cinquième mois, le jeûne du septième et le jeûne du dixième deviendront pour la maison de Juda allégresse, joie, gai jour de fête. Voilà. Donc ça veut dire que tout le jeûne, c'est aussi une préparation à la joie. C'est une préparation à la joie en promesse. Donc, ce n'est pas question de mortification, ce n'est pas qu'une question d'expiation des péchés. Ici, dans tout ce qu'on a vu pour l'instant, il y a très très peu de place pour ce qu'on va voir après dans le christianisme, qui est beaucoup plus présent dans le christianisme, le jeûne, contrôle, mes pulsions, etc. Hein, on n'est pas tellement dans ce registre-là. On est vraiment dans un registre très religieux, c'est-à-dire je jeûne pour obtenir des faveurs divines ou expier les péchés, etc. Et je sais que je vais être exaucé. Voilà. Je sais que ce jeûne n'est pas inutile. Je sais que le Seigneur va nous rendre la joie. Et si je fais un jeûne, c'est parce que je sais, hein, comme dit Jésus dans l'évangile de Jean, priez comme si vous avez déjà, vous savez que vous avez été exaucé, quoi. Hein, voilà. Et donc, c'est ça, en fin de compte, le but du jeûne. Alors, le Christ lui-même, bien sûr, on va rentrer dans le Nouveau Testament quand même, le Christ lui-même a pratiqué le jeûne. Hein. Il a pratiqué le jeûne au désert pendant 40 jours. C'est une des premières choses, c'est la première chose qu'il fait pratiquement de son ministère public, juste après son baptême. Eh bien, il part 40 jours au désert où 40 jours, 40 nuits, voilà, pour être alors emmené au désert par l'Esprit. Donc ça veut dire que c'est l'amour qui le pousse au désert, voilà, et pour être tenté par le diable. Ça, c'est Matthieu qui nous dit l'objectif des 40 jours au désert, c'est d'affronter le démon. Et le démon attend le 40e jour, hein, bien sûr. Et on verra que dans la pratique du jeûne, pratico-pratique, c'est toujours on est toujours tenté un peu avant la fin. La fin F-I-N. Voilà. C'est-à-dire que, allez, il reste une heure et tout. Allez, non, bah oui, c'est là qu'on est tenté, hein, toujours vers la fin, quoi. Bon. Donc, le Seigneur, c'est pour combattre le démon. Ensuite, on a, en Matthieu 17, voilà, c'est la transfiguration. Et après la transfiguration, vous savez, Jésus redescend de la montagne avec Pierre, Jacques et Jean. Il se retrouve avec les foules. Et puis dans la foule, il y a quelqu'un qui a amené son fils qui est possédé. Et les disciples ne sont pas parvenus à le guérir. Alors que Jésus était sur la montagne avec Jacques et Jean, les autres ont essayé de faire des exorcismes, ils n'y sont pas arrivés, quoi. Alors du coup, Jésus n'est pas très content. Bon. Donc évidemment, lui, ça marche bien. Hein, et la question des disciples, en privé bien sûr, pas devant les autres, hein. Pourquoi nous autres n'avons-nous pu l'expulser ? Parce que vous avez peu de foi. Car je vous le dis en vérité, si vous avez la foi gros comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, déplace-toi ici, d'ici à là, et elle se déplacera, et rien ne vous sera impossible. Et certains manuscrits rajoutent, cette espèce ne peut sortir que par le jeûne et la prière. Voilà. Cette espèce de démon ne peut sortir que par le jeûne et la prière. Donc c'est encore quelque chose qui est lié à l'exorcisme, hein, le jeûne. Et dans les chapitres 13 et 14 des Actes des Apôtres, hein, on fait un grand bond en avant, si je puis dire, comme dirait Mao, on fait un grand bond en avant et on arrive à l'ordination épiscopale de Paul et Barnabé. Il y avait dans l'église établie en Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabé, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaïm, ami d'enfance d'Hérode le Tétrarque, et Saül, Paul. Or, un jour, tandis qu'ils célébraient le culte du Seigneur et jeûnaient, l'Esprit Saint dit « Mettez-moi donc à part Barnabé et Saül en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir prié et jeûné, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent à leur mission. Et c'est valable aussi au chapitre 14 pour, je ne sais plus pourquoi j'avais noté le chapitre 14, mais c'est du même ordre. Voilà. C'est-à-dire qu'on voit que pour l'ordination pour la mission, il y a une imposition des mains, bien sûr, hein, que cette imposition des mains est un geste qui est chez Jésus aussi un geste d'exorcisme. On ne le voit pas beaucoup ça comme ça dans, dans l'ordination. Hein. On a l'impression que c'est une configuration au Christ prêtre, c'est très vrai. Mais, tout comme dans le baptême, il y a un exorcisme, en fait, qui est pratiqué, bien sûr, par l'évêque, qui est le grand exorciste du diocèse. Hein. Eh bien, l'ordination elle-même est un exorcisme, et le jeûne est lié à cette lutte contre les démons. Or, aujourd'hui, malheureusement, on ne conseille plus aux ordinants de jeûner la veille de leur ordination, mais c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait remettre en pratique, parce que, précisément, il est évident que tout prêtre est solidement attaqué dès qu'il reçoit l'ordination. Hein, on a une cible sur la tête, dit tout de suite. Voilà. Donc ça veut dire que c'est pour ça qu'en fait il jeûnait. Voilà.
Donc c'est souvent lié au combat contre le démon. C'est aussi nécessaire pour entendre les appels de l'esprit, hein, au moment où on choisit Barnabé et Paul pour la mission. Jésus est monté au ciel, il a envoyé son Esprit Saint, on est après la Pentecôte, et donc les disciples ne sont plus avec un Jésus en face d'eux qui leur dit quoi faire, ou qui les emmène un peu partout. Ils doivent en eux-mêmes sentir, avec leur sens spirituel, la volonté de Dieu par l'Esprit Saint, exprimée par l'Esprit Saint. Et donc le jeûne sert à la fois de lutte contre le démon et d'outil de discernement, pour avoir les idées claires. Voilà. J'avais un prof de philosophie au séminaire qui me disait qu'il était longtemps, il avait été végétarien parce qu'il avait remarqué que quand il ne mangeait que des légumes, il avait l'esprit beaucoup plus clair pour travailler sa philosophie. Bon, c'était un original, hein. Mais voilà, il avait. Et puis jusqu'au jour où il a vu le film La Chute, qui est un film sur les derniers jours d'Adolf Hitler, et il s'est rendu compte qu'Hitler avait été végétarien. Et quand il est sorti du cinéma, il est allé à l'Hippopotamus pour manger un steak tout de suite. Voilà. Donc, je suis désolé si je raconte ce que. Voilà. Cela dit, il a gardé sa pratique, voilà, son ascèse. Quand il a besoin de travailler, il régule sa nourriture, justement. Voilà. Mais voilà, c'était, comme je vous l'ai dit, c'est un original. Je ne mets pas son expérience comme un modèle de vie par ailleurs. Donc voilà, donc ça veut dire qu'il y a quand même un lien effectivement sur ces questions du discernement. Et si on revient au but du jeûne, c'est-à-dire rentrer dans la volonté du Père, qu'est-ce qui nous empêche de rentrer dans la volonté du Père? Deux choses, le démon bien sûr qui essaye de nous tromper, et notre incapacité à écouter l'Esprit Saint. En fin de compte, c'est ça les grands obstacles, hein. Et donc le jeûne vient, on va dire, lever, en tout cas au moins partiellement, autant qu'on le peut, ces obstacles. Alors après les actes des apôtres, on rentre dans l'histoire de l'Église. Et dans l'histoire de l'Église, on a un épisode très glorieux de l'histoire de l'Église, c'est le début du monachisme, le début de la vie monastique. Ça a commencé par, très vite, il y a eu les deux formes de la vie monastique, c'est qu'il y a deux formes dans la vie monastique, la forme érémitique, donc les ermites dans le désert, et la forme cénobitique, c'est-à-dire les communautaires, ceux qui ont une vie communautaire. Aujourd'hui, en Occident, on n'a pratiquement que de la vie cénobitique, et en Orient, ils ont encore gardé une forte connotation de vie érémitique. Hein, voilà. Donc, les pères du désert, ce sont des prêtres, des consacrés, des moines, qui ont vécu dans le désert d'Égypte, donc dans la Thébaïde, hein, c'est-à-dire le désert profond. Hein, ce n'était pas Alexandrie, Alexandra, ils étaient dans le désert profond. Hein, au 4e siècle, 5e siècle, ça s'est prolongé un peu après, jusqu'à l'invasion arabe. Et en fait, ils avaient, à la suite de saint Antoine le Grand, la volonté de vivre avec le Christ au désert, comme lui-même a vécu pendant ses 40 jours. Et ils nous ont laissé, c'est ça qui est très riche, plein de petits apophthegmes, plein de petites phrases, plein de petits conseils spirituels qui ont été recueillis par leurs disciples, parce qu'évidemment, ces gens vivaient seuls, mais ils avaient toujours plein de disciples autour d'eux qui venaient les voir et les déranger. Et un des plus beaux, hein, si vous avez l'occasion de lire ça, c'est un latin qui s'appelle Jean Cassien, qui était un moine de l'abbaye de Lérins, et qui est venu en Orient pour recueillir les enseignements des prêtres, des moines d'Orient, et le ramener ça en Occident. Et il a écrit un livre qui s'appelle Les Collationes, et c'est vraiment un très très beau compendium de ça. Alors, l'abbé Pomène, nous, tous les gens que je vais citer ont donc vécu à peu près au 4e, 5e siècle. Hein. L'abbé Pomène nous avertit des dangers de la nourriture. L'abbé Pomène a dit, de même que la fumée chasse les abeilles, et que c'en est fait alors de la douceur de leur activité, faire le miel, tout ça, ainsi le bien-être corporel chasse la crainte de Dieu de l'âme et lui enlève toute sa bonne activité. C'est-à-dire que quand on se soigne trop, entre guillemets, quand on prend trop soin de soi au sens où bah, je suis un peu, faut le dire, on est tous un petit peu comme ça dans la culture du bien-être, hein. C'est un petit peu notre univers dans lequel on vit, hein. Eh bien, et ça commence, donc là, le thème, c'est plus la nourriture, mais il n'y a pas que ça. Il nous dit, ça enlève la crainte de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, on est tellement bien, qu'en fait, on ne pense pas forcément qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, quoi. Voilà. C'est ça qui est un peu, on est comme des coqs en pâte, on est un peu au centre du truc, on s'est mis au centre de notre vie pour chercher notre bien-être, et puis du coup, bah, Dieu lui-même, il n'y a plus de crainte de Dieu, au sens où il n'y a plus de respect pour Dieu,
Donc c'est un peu l'âme, et ça lui enlève toute sa bonne activité, parce qu'évidemment, rien de bon ne sort si ce n'est du cœur de Dieu qui nous donne de le faire, quoi. Un ancien a dit, triomphe du démon de la gourmandise en lui disant, attends, car tu n'es pas affamé, et mange plutôt avec retenue. Et toi, mange d'autant plus doucement qu'il te presse davantage. C'est ainsi que le démon pousse quelqu'un à vouloir tout manger dès la première heure. Ça, c'est la gloutonnerie, c'est-à-dire que je commence une tablette de chocolat, je la termine. Quand je dis je parle je. Hein. C'est pas un exemple théorique. Hein. Et là, en fin de compte, l'ancien nous dit, dis à ton démon, attends, t'as pas si faim que ça, en fait. Attends un petit peu. Voilà, le retenir un peu, lui dire, bah, mange plus lentement. Hein, alors, vous avez des conseils. Alors, j'étais tombé une fois sur, dans les sœurs de les moniales de Bethléem et de l'Assomption, là, qui sont un peu de tradition orientale, hein, celles qui sont à Victor Hugo à Paris, là, ou à Nemours, ou bien à Currières en Chartreuse, etc. Elles ont des tas de conseils comme ça, issus des pères de l'Église. Alors, elles disent, bah, il faut mâcher 17 fois la bouchée avant de l'avaler. Ouais, tu passes ta journée à bouffer, quoi. Ça ne va pas du tout. Hein. Pour enlever toute la saveur des aliments. Ça, j'avoue que j'ai un peu du mal. Bon. Mais cela dit, un grand principe, effectivement, qui est bon à appliquer, c'est d'éviter le grignotage. Ça, tout le monde le dit. Hein. Mais c'est déjà un conseil spirituel, pas simplement un conseil d'hygiène de vie. De même que les drogues les plus âcres expulsent les animaux venimeux, ainsi la prière avec le jeûne chasse les mauvaises pensées. Voilà. C'est-à-dire qu'il va y avoir, il y a ce lien. Le jeûne, c'est aussi le lieu où j'éprouve un peu la résurrection, parce qu'en fin de compte, la résurrection, c'est quoi ? C'est l'unité paisible du corps et de l'esprit. C'est-à-dire que nous, dans notre état présent, nous vivons des tensions entre notre désir spirituel et notre désir corporel. La résurrection, c'est la paix, l'alliance. Dieu a fait alliance avec les hommes, avec son peuple, Israël, avec la Vierge Marie, avec Jésus, pour que chacun d'entre nous, en nous-mêmes, nous puissions faire alliance en nous, entre notre corps et notre esprit, que ce ne soit plus le combat, mais au contraire, que l'amour ayant triomphé, eh bien, il gouverne paisiblement toutes nos activités corporelles. Voilà. L'amour au sens de la charité de Dieu. Et donc le jeûne, mais avec l'aspect effort qui est inhérent à notre situation actuelle, eh bien, refait ce lien en disant effectivement, quand mon corps et mon esprit sont liés, de fait, il y a un impact, et c'est vrai que quand je jeûne, eh bien, il est plus facile pour moi de maîtriser mes pensées, mes mauvaises pensées, notamment des pensées, bien sûr, d'ordre de désir, de mauvais désir. Alors, ça, effectivement, c'est un combat spirituel, le jeûne, mais il y a aussi des moyens techniques à prendre. Alors, l'abbé Macaire, hein, qui était un des plus rudes, hein, avait cette petite attitude. On disait de l'abbé Macaire que s'il lui arrivait de se trouver avec des frères, donc avec d'autres moines, il s'était fixé cette règle. S'il y a du vin, bois-en à cause des frères. Ça veut dire, c'est une charité qu'ils te font, et la charité prime sur ton jeûne. Donc, tu viens, c'est pourquoi vous me verrez boire abondamment quand vous m'invitez chez vous. C'est par charité. D'abord. Mais, et là il y a le mais que malheureusement j'oublie trop souvent, hein. Mais pour chaque coupe de vin, soit un jour sans boire d'eau. Les frères donc, pour le remonter, lui en donnaient du vin. Et le vieillard le prenait avec joie pour se mortifier. Mais son disciple ayant vu la chose, dit au frère, au nom du Seigneur, ne lui en donnez plus, car autrement il va se faire mourir dans sa cellule. Ayant appris cela, les frères ne lui en offrirent plus. Voilà. Donc ça veut dire que le gars, voilà, il disait, bon, voilà, la charité prime, c'est vrai, mais derrière, je mortifie de ce qu'il faut mortifier. Bon. L'abbé Jean Colobos a dit, si un roi voulait s'emparer d'une ville de ses ennemis, il commencerait par mettre la main sur l'eau et les vivres, et ainsi les ennemis mourant de faim se rendraient à lui. De même pour les passions de la chair, si un homme vit dans le jeûne et la faim, les ennemis sont sans force contre son âme. Donc en fin de compte, on ne peut pas gagner contre le démon, c'est impossible. Hein. On ne peut pas gagner contre le démon, il est beaucoup plus fort que nous, évidemment. Mais on peut lui retirer son carburant. C'est-à-dire lui enlever les occasions, en fait. Hein, et le jeûne est un des... Alors après on verra qu'il y a plein de formes de jeûne, hein, mais le jeûne, en tout cas même alimentaire, est un remède assez souverain contre ça. C'est-à-dire qu'on enlève au démon les forces qu'il utilisait contre nous, parce qu'évidemment, le démon, lui, va prendre nos pulsions naturelles qui sont bonnes, puisqu'elles sont créées par Dieu. Elles sont bonnes. Le désir est bon. Mais le problème, c'est que le démon le transforme en envie. Et c'est plus tout à fait pareil, une envie par rapport à un désir. J'ai envie d'une chose, je désire quelqu'un. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et donc, en fait, et puis l'envie est auto-centrée. Elle regarde moins l'objet du désir que soi-même en train d'avoir envie. Et donc, ça veut dire qu'il faut, il y a un travail à faire pour retrouver le sens que Dieu a donné à nos désirs. Alors, le jeûne, en fait, pour ces pères du désert, n'était pas simplement un jeûne alimentaire, il était aussi un jeûne de la parole. Ils étaient très soucieux de conserver le silence. L'abbé Évagre le Pontique, extraordinaire, hein, si vous avez l'occasion de lire un peu ses écrits, c'est vraiment un des plus grands avec Abba Macaire, hein, c'est deux très grands. L'abbé Évagre a dit qu'un vieillard avait dit, donc autrement dit c'est lui en fait, hein, mais, hein, si je rejette les plaisirs, c'est afin de retrancher les prétextes à la colère, car je sais que celle-ci m'attaque toujours pour les plaisirs, qu'elle trouble mon esprit et chasse la science. Et donc ça veut dire que on voit qu'un même organe, nous sert à manger, à goûter les plaisirs de la table et à parler. Tout ça se passe par la bouche. Voilà. C'est un même organe. Et en fin de compte, c'est pas du tout. On commence à comprendre pourquoi. En fin de compte, la Bible nous présente le péché originel comme une manducation, ce que je mange, parce que c'est dans la bouche que le problème se passe. Voilà. Et donc, ça veut dire que Évagre avait remarqué que la colère vient souvent d'un plaisir inassouvi. Et donc, on va en reparler un petit peu après, mais donc ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire pour lutter contre la colère afin d'enlever les prétextes à la colère à la racine. On disait de l'abbé Agathon qu'il passa 3 ans portant un caillou dans la bouche jusqu'à ce qu'il ait appris à se taire. Voilà. Voilà. Ça, c'était les pères du désert. Ils étaient un peu à fond. Voilà. Se taire, enlever les prétextes au péché, jeûner de paroles, jeûner de nourriture. Nous, on va le transposer, hein, jeûner d'écran, jeûner tout ce que vous voulez, pour pouvoir retrouver, pour enlever les prétextes à la colère. Voilà. Qui viole la charité, qui est le contraire de la volonté du Père. La colère, c'est le contraire de la volonté du Père. La volonté du Père, c'est la charité. Donc je ne peux pas rentrer dans la charité si je suis en permanence tiraillé par des désirs inassouvis. Alors, aujourd'hui, dans l'Église, ça se passe comment? Ben, figurez-vous que le jeûne, je vais vous citer le code de droit canonique. Voilà. Parce qu'au fond, le jeûne est évoqué dans le droit canonique, tout simplement. Alors, quel est le premier jeûne et le jeûne que vous faites systématiquement? Vous jeûnez toutes les semaines, en fait. Vous n'en rendez pas compte. Mais vous jeûnez toutes les semaines. Le jeûne eucharistique. Voilà. Le jeûne eucharistique. J'espère que vous le respectez, hein, attention. Hein. Qui va recevoir la très sainte Eucharistie s'abstiendra au moins une heure avant la Sainte Communion de prendre tout aliment et boisson, à l'exception seulement de l'eau et des médicaments. Voilà. Donc, voilà. Qui va recevoir la très sainte Eucharistie au moins une heure avant la Sainte Communion? Alors, à ça, je rajouterai un conseil, mais là qui est un conseil. Ça, c'est une obligation canonique. Ce que je vous dis là, c'est un conseil. Moi, j'essaye dans la mesure du possible, et j'y arrive assez bien parce que les horaires des messes sont plutôt bien adaptés pour ça, de ne pas arriver à la messe avec et en ayant le sentiment d'être rassasié. Parce qu'on peut avoir mangé il y a une heure seulement, mais si on s'est empiffré, on arrive avec on est bien rassasié, on n'a plus besoin de Dieu, quoi. Voilà. Et même dans la mesure du possible, d'arriver avec un peu de faim. Voilà. J'aime bien avoir faim quand je commence à célébrer l'Eucharistie. Alors après, ça, c'est à chacun de nous de déterminer. Mais en tout cas, la règle, c'est une heure. Les personnes âgées et les malades, ainsi que celles qui s'en occupent, peuvent recevoir la très sainte Eucharistie, même si elles ont pris quelque chose moins d'une heure auparavant. Voilà. Toujours, ça, c'est bien sûr, il y a le respect pour les malades et les personnes âgées. Et celles qui s'en occupent. Intéressant, hein? Les aidants, là, je suis en train d'enterrer plein d'aidants en ce moment. Faites attention, les aidants. Hein? Prenez soin de vous aussi. Voilà. Alors après, il y a des jours de jeûne aussi, obligatoires. Il n'y en a pas 50 000. Hein. Les jours et les temps de pénitence pour l'Église tout entière sont chaque vendredi de toute l'année et le temps du carême. C'est-à-dire que tous les vendredis de l'année, c'est un temps de pénitence, sauf les solennités, s'il y a une solennité qui tombe un vendredi, genre le Sacré-Cœur, par exemple. tombe toujours un vendredi. Les jours, c'est un temps de pénitence. Mais ça ne veut pas dire que c'est un jeûne. Bon, on va essayer de comprendre. Et pendant tout le temps du carême, c'est pénitence. Voilà, ça veut dire, bah alors moi je m'échine quand même à expliquer à mes jeunes d'Even le soir. Ah ben non, je l'ai dit, je crois aussi en chair. Hein. On ne fait pas la fête le vendredi soir. Voilà. Pendant le carême, on ne fait pas la fête le vendredi soir. Et même, je dirais, si on est vraiment pieux, bah, on ne fait pas la fête le vendredi soir toute l'année. Bon. Je vous avouerai que moi, je ne suis pas absolument strict et j'accepte une invitation ou l'autre le vendredi soir. Mais en temps de carême, normalement, vous ne me verrez pas accepter un dîner un vendredi de carême. Ça peut arriver exceptionnellement pour des raisons très très particulières, parce qu'il y a une urgence ou je ne sais pas quoi, mais normalement, ce n'est pas le cas. Et donc, l'abstinence de viande ou d'une autre nourriture selon les dispositions des conférences des évêques, en France c'est la viande, sera observée chaque vendredi de l'année, à moins qu'il ne tombe l'un des jours marqués comme solennité. Mais l'abstinence et le jeûne seront observés le mercredi des cendres et le vendredi de la Passion, donc le vendredi saint. Donc les deux jours de jeûne vraiment obligatoires, c'est mercredi des cendres, vendredi saint, avec jeûne, donc là jeûne. Alors derrière le mot jeûne, l'Église laisse une certaine latitude. Ça peut être souhaiter un repas. Ça peut être prendre, ne pas manger du tout. Ça peut être manger du pain avec de l'eau. Ça peut être, bon là, il y a une latitude, il n'y a pas de règle absolue. En revanche, c'est une abstinence, c'est-à-dire pas de viande, ça c'est clair. Voilà. Aucun vendredi de carême, aucun vendredi de l'année et pas le mercredi décembre non plus. Sont tenus par la loi de l'abstinence, donc pas de viande, les fidèles qui ont 14 ans révolus, mais sont liés par la loi du jeûne tous les fidèles majeurs jusqu'à la 60e année commencée. Attendez, les trois quarts de l'Assemblée, là, vous êtes exempts. Hein. Voilà. Alors, je pense qu'avec l'allongement de la durée de vie et le fait que la plupart d'entre les seigneurs parmi nous sont en excellente santé, voilà. Donc ça veut dire que, bien sûr, lié par la loi du jeûne, ça ne veut pas dire qu'en étant délié de la loi du jeûne, du coup, on doit faire n'importe quoi. On peut décider de continuer cette pratique-là, si on... mais il faut être attentif à la santé. Hein. Voilà. Les pasteurs d'âme et les parents veilleront cependant à ce que les jeunes dispensés de la loi du jeûne et de l'abstinence en raison de leur âge soient formés au vrai sens de la pénitence, c'est-à-dire qu'ils n'y échapperont pas quand même. Hein. On peut remplacer l'abstinence de viande ou le jeûne par une œuvre de piété ou de charité. Les règles sont variées avec le temps. Au Moyen-Âge, on jeûnait bien plus souvent. On jeûnait beaucoup plus souvent à toutes les grandes fêtes. Il y avait des jeûnes préparatoires à Noël, il y avait des jeûnes préparatoires à la Saint-Michel, il y avait des jeûnes préparatoires à tout ce que vous voulez. Les quatre temps aussi. Hein, c'est quelque chose qu'on a perdu un peu, mais les tradis ont gardé ça. Hein. Célébrer les messes des quatre temps pour les saisons. Il y avait un jeûne, voilà, il y avait un jeûne, deux jours de jeûne pour les quatre temps. Voilà. Alors... Le lien, en fin de compte, le lien spirituel avec le jeûne, c'est le fait que le jeûne exerce la vertu de tempérance. Donc la vertu de tempérance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une vertu qui m'apprend à réguler mes passions, mes pulsions, mes humeurs, pas simplement ma nourriture, mais la nourriture est un des éléments importants. La gourmandise, bien sûr, a un champ d'application très vaste. L'oisiveté... Les écrans, la malbouffe, la luxure, la violence, tout ça, ça fonde une culture commune assez néfaste. Hein. Et on voit bien que l'intempérance, les péchés sont liés, hein, c'est-à-dire que ce sont ce qu'on appelle des péchés capitaux, hein, donc la gourmandise est un péché capital. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un péché capital? Ça veut dire qu'il est source d'autres péchés. Il est à la tête, caput, d'autres péchés. Il va en provoquer d'autres. Et donc c'est très clair que, par exemple, la gourmandise... va assez facilement provoquer la luxure. Si je commence à boire ou à manger plus que de raison, j'ai beaucoup plus de mal à tenir mes pulsions de type sexuel. C'est bien plus difficile. C'est une technique de drague bien connue. Hein. Dans les soirées, hein, on boit et puis hop, voilà. Comme ça, on obtient un peu ce qu'on veut. Il faut bien avoir conscience de ça. Hein. C'est-à-dire qu'on doit quand même un petit peu se maîtriser là-dessus. Derrière, par exemple, ça peut mener aussi à la colère, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui tombe dans la luxure quand il aura passé ce stade, à cause de sa mauvaise conscience, devenir irascible. Et donc, on voit que c'est des péchés en cascade. Voilà. Tout ça vient de quoi? du fait que je n'ai pas su tenir à peu près ma vie, mon corps. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un travail qui est important pour nous et qui est à la source de beaucoup d'autres péchés dans notre vie. Ce n'est pas tous les péchés, puisque l'Écriture nous dit que la racine des péchés, c'est l'amour de l'argent. Donc il y a quelque chose derrière, mais ou l'orgueil. Il y a les deux traditions. Mais derrière la gourmandise, il y a une forme de... vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on ramène à soi le monde, hein, pour le manger. Voilà. Alors, il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est qu'on est entouré de très bonnes choses sur cette terre, et la France est un pays qui, particulièrement, a très vite compris qu'il y a de très bonnes choses dans ce monde, et qu'il ne faut pas du tout s'en priver. On a la chance d'avoir une religion qui est extrêmement peu demandeuse sur les questions de règles alimentaires. À part ce que je viens d'évoquer, on n'a pas d'interdit fondamental au niveau de l'alimentation, sauf pour quelques religieux, hein, qui peuvent avoir des choses un peu plus dures, mais disons le commun des fidèles, non. Mais il faut bien comprendre que pour nous, la simple réception des biens de ce monde pour en jouir joyeusement, parce qu'on pourrait dire « Dieu a mis tout ça pour nous », autant jouer joyeusement, ça ne suffit pas à nous faire rentrer dans la charité de Dieu. Justement, toujours cet objectif, rentrer dans l'amour de Dieu, dans sa volonté, inévitablement nous finissons par nous repaître du monde à notre profit exclusif. C'est une tendance inévitable. C'est les traces du péché originel en nous, ce qui fait que quand on est dans l'abondance et qu'on profite de cette abondance sans retenue, eh bien, on finit par se repaître du monde pour notre profit exclusif. Et donc à tomber dans toutes les sortes de péchés que j'ai pu dire. Voilà. On voit bien que pour rentrer dans la charité de Dieu et recevoir de lui le monde à nouveau, comme un cadeau, comme une grâce, comme une joie, toutes ces bonnes choses que Dieu a mises sur notre terre, les belles choses de la création, les bonnes choses à manger, les belles choses à voir, tout ça... quelque part, pour pouvoir véritablement recevoir de lui cela et en user selon sa volonté, il nous faut le sacrifier. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a un sacrifice à faire de notre jouissance du monde pour pouvoir accueillir le monde à nouveau comme un cadeau et une joie. Sinon, on en fait un bien dont on se repaît égoïstement. Et on sort de la volonté de Dieu. Et le jeûne est précisément dans cette articulation-là. Le jeûne n'a pas pour but de nier la bonté du monde, il a pour but au contraire de nous enrichir du monde, de nous faire passer du McDonald's aux 3 étoiles Michelin par justement le fait d'arrêter de manger McDo. À un moment donné, j'arrête de me répéter de ce que le monde me propose d'emblée, je prends du recul en me disant est-ce que je vais me... Le monde m'encourage à me répéter puisque tout le système économique est basé sur la surconsommation. Donc... c'est l'encouragement général que nous avons d'acheter un truc de plus, de manger un truc de plus, etc. Bon. Une fois, j'ai assisté à une conférence d'un Américain très très maigre, ce qui est pas très fréquent. Il était extrêmement maigre. Et une des personnes lui demande : mais comment faites-vous pour rester si maigre aux États-Unis ? C'était aux États-Unis, c'était pas en France. Hein. Et il dit : ben, je m'arrête quand j'ai assez mangé. Et là, tout le monde s'est marré, parce qu'évidemment, c'est pas du tout l'attitude globale. On mange. Par plaisir, moi le premier. Hein. Voilà, bon. Donc, ça veut dire que voilà, il y a en nous cette tendance-là, et pour vraiment profiter et découvrir la saveur du monde, quelque part, eh bien, on doit pouvoir s'en détacher à un moment donné. Et le jeûne est un des aspects, bien sûr, du détachement. Le Christ évoque cela dans le chapitre 9 de Matthieu, je terminerai là-dessus, avec cette parole de Jésus, où il évoque. Alors, il y a un évangile où on ne parle absolument pas du tout du jeûne. Il n'y en a qu'un seul. Les trois évangiles synoptiques, Matthieu, Marc, Luc en parlent. Jean n'en parle pas du tout. Le mot n'est pas du tout mentionné. D'ailleurs, ça commence par les noces de Cana. Enfin, c'est un peu la fête, quoi. Donc, je ne sais pas. Il a peut-être été traumatisé par les autres évangélistes, hein, notre ami Jean, parce qu'il écrit un peu après eux. Mais lui, le jeûne, ce n'est pas son truc. Hein. Voilà. Donc, ce n'est pas ce qu'il a retenu de Jésus, en tout cas. Les disciples de Jean-Baptiste s'approchent de Jésus en disant « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous » selon les jeûnes dont j'ai parlé du judaïsme hein, « et tes disciples ne jeûnent-ils pas ?» Et Jésus leur dit « Les compagnons de l'époux peuvent-ils mener le deuil pendant que l'époux est avec eux? Mais viendront des jours où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Ça veut dire que, pour le Christ, le jeûne est lié à sa personne. C'est-à-dire que le jeûne a pour objectif fondamental de retrouver Jésus comme vraie nourriture. Dans l'Eucharistie, bien sûr, puisque c'est là qu'il se donne en nourriture, mais aussi dans la parole, dans les relations fraternelles, Dieu se donne en nourriture de plein de façons. Mais si je veux me repaître de la volonté de Dieu, de cette charité de Dieu, eh bien, c'est d'abord dans le sacrifice eucharistique que ça se joue. Et donc le jeûne, pour le Christ, quand un chrétien jeûne, c'est dire « ma vraie nourriture n'est pas de ce monde ». Alors évidemment, on ne peut pas faire ça tout le temps, parce qu'on est encore dans ce monde. Mais de temps en temps, et le carême est une période particulière, où on est là pour se rappeler à soi-même, par le jeûne qui va toucher mon corps et mon esprit, que ma nourriture véritable, celle qui fait la joie de mon cœur, qui assure ma croissance spirituelle, n'est pas de ce monde. Et donc je jeûne parce que cette nourriture m'attend au ciel et qu'elle n'est pas encore là. Et je me prépare à la recevoir, et bien sûr je la reçois déjà en espérance, puisque vous savez que l'Eucharistie, bien sûr, c'est la présence réelle du Christ, mais c'est aussi l'espérance du règne à venir. Et donc, voilà, je la reçois aussi en espérance à chaque messe à laquelle je participe. Voilà, je me suis permis de donner quelques éléments sur le jeûne, c'est pas du tout exhaustif, bien entendu, et loin de l'érudition nécessaire, mais de fait, quelques éléments peut-être pour vivre le jeûne avec un regard un peu nouveau, pas comme une performance, on n'est pas là pour faire des performances. Ça, c'est Saint François de Sales disait, le démon a une tactique pour chacun d'entre nous, les paresseux, il les laisse dans leur paresse, les généreux, il les épuise dans leur générosité, afin qu'ils se donnent des objectifs qu'ils ne peuvent pas tenir au final. Donc il faut savoir doser, se dire qu'est-ce que je peux faire, vraiment, froidement, devant Dieu. Voilà, je me mets en prière, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire sur la question du jeûne, précisément. Il reste encore quelques semaines de carême, on est à la moitié, grosso modo. Peut-être que si on n'a pas commencé vraiment un jeûne sérieux, on peut se demander maintenant comment faire, mais pas pour une performance, pour se dire qu'est-ce que je peux faire. Voilà, tu me donnes un point, et ce point, par contre, je vais m'y tenir. Voilà. Et ça va être pour moi une façon de me disposer à te recevoir en nourriture. Voilà. Et ça peut être de jeûner, il y a plein de façons de jeûner, mais en tout cas, j'en choisis une et je m'y tiens. La régularité, me disait mon prof de mathématiques en sixième. La régularité. Monsieur Maillard, la régularité. Soyez régulier. Donc ça, j'ai gardé dans les trucs qui restent quand même. Voilà, on a le temps pour prendre quelques questions, une ou deux questions, pas beaucoup plus, parce que malheureusement, j'ai le conseil pastoral tout bientôt. Enfin, c'est pas malheureux, mais c'est, il faut... Voilà. Mais si vous avez quelques questions, je suis tout à fait disposé à répondre dans la mesure de mes modestes moyens. Non, si, une petite question. Oui, allez-y. Je répéterai votre question pour que tout le monde l'entende. Oui. Si la vraie nourriture n'est pas de ce monde, est-ce qu'on est dans le vrai monde ? Ben, on est dans le monde, le monde est vrai au sens où il existe quand même, enfin on en fait l'expérience, mais surtout, il y a une vérité dans ce monde. Le Seigneur nous a visités, et même s'il y a du mensonge, il y a aussi une vérité. Il n'y a pas que du mensonge dans le monde. Un des objectifs du jeûne, précisément, c'est de comprendre, d'arriver à discerner ça. C'est-à-dire de se dire, ben, précisément, en refusant de manger n'importe comment, je refuse d'accepter n'importe quoi. Vous voyez, je l'ai déjà dit, ça peut être, vous m'avez déjà entendu, c'est un peu ma marotte, mais pourquoi le cochon est un animal qui n'est pas cachère ? C'est pas tellement la viande en elle-même, on s'en fout. C'est la façon de manger. Le cochon mange strictement n'importe quoi, tout ce qu'on lui donne. Voilà. Alors que la brebis va choisir la bonne pâture, va prendre son temps pour ruminer son truc. Et donc les juifs qui voient ça, ils voient tout de suite une parabole en fait, de leur rapport à l'écriture sainte, à la foi, etc. Au monde. Voilà. Je ne prends pas n'importe quoi, je fais attention. Je suis une brebis et pas un cochon. Voilà. Et donc le jeûne, ça nous rend... Alors moi, il n'est pas question que j'arrête le cochon. renoncer à la charcuterie serait pour moi très difficile, mais de fait, le spirituellement, je dirais, le jeûne, ça nous rend un peu moins porcin, je dirais, et un peu plus sain tout court, quoi. Voilà. Il n'est pas difficile, le porc, c'est vrai. Vous avez raison, il faut voir aussi le bon aspect des choses. Le porc n'est pas un animal difficile, il n'est pas casse-pied. Voilà. Il donne ce qu'on mange, ce qu'on lui donne à manger.
Moi, j'aime beaucoup dans le milieu, la notion de tempérance.
La tempérance, oui. Ça permet de réguler, de tempérer. Enfin, voilà, on voit bien. Hein. Oui, la tempérance, c'est important, bien sûr, et parce que ça rejaillit sur tout le reste. La tempérance de caractère, la tempérance... Le rapport à l'achat compulsif. Hein. Ne faites jamais les courses quand vous avez faim. Ça, c'est une base. Hein. Il ne faut jamais faire les courses quand on a faim. Voilà. Ou alors, on fait un jeûne. C'est-à-dire, c'est une faim qui est spirituellement assumée. Parce que sinon, effectivement, si on ne régule pas sa tempérance par le jeûne, de temps en temps, eh bien, dès qu'on fait les courses quand on a faim, tout de suite, on commence à tout acheter. Oui, la gratitude du jeûne. Oui, alors déjà, ça. Alors il y a une vraie gratitude au sens. Par rapport à Dieu, vous voulez dire ? Ou par rapport à. Je ne comprends pas trop la remarque. Oui. Mmh. Oui, c'est ça.
On a besoin de moi.
Oui, c'est ce que j'appelais par recevoir le monde à nouveau comme un don de Dieu. Voilà. Et pas comme une chose à consommer. Effectivement. Je pense que ça, c'est un point important. Ouais. Alors, les orientaux nous conspuent. Hein. Ils disent que les latins, on a complètement perdu la tradition du jeûne. Ce qui n'est pas totalement faux, pour être franc. Ils n'ont pas tout à fait tort, quand même. Eux sont beaucoup plus rigoureux sur la question du jeûne. Voilà. On a aussi à se. Nous, on est, je trouve, meilleur sur d'autres points. Mais voilà. Mais en tout cas. Non, mais c'est vrai, il y a des choses qu'on a gardées. Qu'on a gardé de façon plus... On a plus de liberté, par exemple, dans le rapport à l'État. Hein. Les orientaux sont très soumis aux politiques, alors que, de fait, nous, on a cette espèce de liberté que nous donne l'Église romaine. Mais pour le jeûne, là, c'est sûr qu'il nous dépasse largement. Donc quand un frère nous dépasse, ben, on essaie de s'inspirer un peu de lui, dans la mesure de nos moyens, de nos possibilités, et de voir comment on peut, nous aussi, retrouver ce goût de la retenue. Je propose qu'on se confie juste à la Vierge Marie et je vais après vous libérer. Sainte Vierge Marie, apprends-nous à être économe, à savoir recevoir le monde avec modestie, comme tu as su recevoir le Christ avec humilité. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous souhaite une bonne soirée et bien entendu un bon dîner.